suite, nous avons le plaisir de recevoir notre nouvelle chroniqueuse, Ludovine de la Rochère. Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors, je rappelle que vous êtes présidente du syndicat de la famille et que aujourd'hui, eh bien, vous vouliez nous parler de l'euthanasie.
Oui, absolument. Alors, un petit point de situation dans un contexte tendu. Comme les auditeurs donc, de Radio Courtoisie le savent, les deux propositions de loi sur la fin de vie ont été adoptées la semaine dernière à l'Assemblée nationale. L'une porte sur les soins palliatifs, l'autre sur le suicide assisté et l'euthanasie. Alors à la suite de cela, j'ai entendu beaucoup de propos découragés, tels que « Nous avons adressé les uns et les autres beaucoup d'alertes et de courriers aux députés, mais ils n'ont rien entendu ». Je tiens donc à souligner, pour commencer, que le parcours législatif de ces propositions de loi n'est pas terminé. Après cet examen en seconde lecture à l'Assemblée nationale, doit suivre en effet l'examen en seconde lecture au Sénat. Puis, comme les résultats seront a priori différents entre les deux assemblées, le Premier ministre devra alors convoquer une commission mixte paritaire, une CMP, composée de députés et de sénateurs. Mais, comme ils ne s'entendront sans doute pas en CMP, tant les positions diffèrent entre les deux assemblées, donc, il y aura très probablement une troisième lecture à l'Assemblée nationale, puis une troisième lecture au Sénat. Et cela devrait s'achever enfin par une quatrième lecture à l'Assemblée nationale, celle-ci ayant le dernier mot suivant l'expression consacrée. Comme vous le comprenez, le processus n'est donc pas du tout terminé. La situation est très inquiétante, nous sommes d'accord, mais il n'est pas question de baisser les bras. Je vous propose par ailleurs de rentrer davantage dans le détail des votes pour savoir si, oui ou non, toutes nos alertes et courriers ont eu de l'effet sur les députés. La proposition de loi suicide assisté et euthanasie a donc été adoptée par 299 voix pour et 226 voix contre. Cependant, entre la première lecture de mai 2025 et cette seconde lecture de février 2026, les votes ont évolué. 27 députés de plus ont voté contre. De 57 abstentions en première lecture, l'Assemblée est descendue cette fois-ci à 37. Au total, en première lecture, la proposition de loi avait été adoptée avec 106 voix de plus pour les pour. Cette fois-ci, elle a été adoptée avec 73 voix de plus pour les pour. Pardonnez-moi de ces chiffres, mais l'analyse
oui.
est vraiment nécessaire. Autrement dit, Les interventions conduites en nombre considérable par des associations auxquelles se sont joints de très nombreux Français ont bien eu un effet majeur. 33 députés ont changé de position, ce qui est considérable, mais pas encore suffisant, hélas.
Alors, et politiquement, comment est-ce que les groupes politiques se sont positionnés et comment ont-ils évolué ?
Alors, il est en effet nécessaire pour la suite de savoir comment ont voté les groupes politiques. Voici donc ce qu'il en est en allant du groupe le plus opposé à l'injection létale au groupe le plus favorable. Du côté UDR, donc les ciotistes, il y a eu 17 députés qui ont voté contre sur 17 députés. Pour les Républicains, 42 députés ont voté contre et 5 ont voté pour. Au RN, il y a eu 102 votes contre et 17 votes pour. En ce qui concerne Horizon, Modem et Liotte, ils sont très divisés, proches d'une moitié pour et d'une moitié contre. Ensemble pour la République, donc Renaissance, la majorité présidentielle, enfin le parti présidentiel plutôt, la majorité a voté pour. Et du PS au PC, les rares votes contre ou abstention sont les exceptions qui confirment la règle. Presque tous ont voté en faveur du suicide assisté et de l'euthanasie. Alors parmi ceux qui ont réfléchi entre les deux lectures, comme ils l'ont indiqué, il y a eu par exemple Guillaume Bigot au RN, qui est passé d'un vote pour en première lecture à un vote contre en deuxième lecture. Ou encore pour le même groupe, Théo Bernard, qui est passé d'un vote favorable à l'abstention cette fois-ci. Pour prendre un autre exemple, dans le groupe Ensemble pour la République, le parti présidentiel donc, la députée Olivia Grégoire est passée de l'abstention à un vote défavorable. Elle a ensuite expliqué qu'elle avait compris, au fil des mois et des débats de deuxième lecture, que la proposition de loi ouvrait à toutes les dérives, et même que ces dérives étaient déjà comprises dedans. Je dois dire aussi qu'en analysant les votes, j'ai constaté que des députés dont le vote allait à l'opposé de leur groupe en première lecture n'étaient pas là cette fois-ci. Des absences qui montrent que la pression monte nettement au fil du temps.
Alors, la proposition de loi sur les soins palliatifs, pour le coup, de son côté, quel a été le résultat de ce second examen pour les députés ?
Alors, le texte sur les soins palliatifs, lui, a été adopté à l'unanimité, en l'occurrence à 491 voix pour et aucune contre. Mais je remarque que 69 députés, tout de même, ont voté l'abstention. Ils sont membres, en l'occurrence, des groupes LFI et écologistes. En ce qui concerne cette proposition de loi, les discussions en séance publique l'ont modifiée à la marge. Sans en transformer l'architecture générale, elle vise donc à développer les soins palliatifs, alors que près de 20 départements en France en sont encore dépourvus. Elle prévoit aussi la création de maisons d'accompagnement, intermédiaires entre le domicile et l'hôpital, une proposition à suivre de près, puisqu'elle pourrait être détournée de son objectif de soins palliatifs, ainsi qu'un financement de 1,1 milliard d'euros d'ici 2034. C'est en réalité modeste comme budget sur autant d'années, et fragile, puisque ce budget fait partie de celui de la Sécurité sociale, lequel fait l'objet de votes au Parlement chaque année. Vous savez, c'est la fameuse proposition de loi de financement de la Sécurité sociale, le PLFSS. Autrement dit, les moyens annoncés pourraient tout à fait être revus à la baisse en cours de route. Quant à l'accès aux soins palliatifs pour tous les malades qui en ont besoin, l'État est déjà supposé l'assurer depuis la loi du 9 juillet 1999, laquelle a été renforcée en 2002, 2005 et 2016. Ainsi, vous l'avez compris, cette proposition de loi visait d'abord à cautionner l'autre, celle qui concerne l'injection létale. Alors pour conclure, et comme vous vous y attendez, puisque je vous ai démontré que nos interpellations ont du poids, j'appelle à rester mobilisés pour défendre les plus vulnérables d'entre nous et pour protéger les fondements de notre civilisation. Ces deux textes seront examinés en effet très bientôt, en seconde lecture au Sénat, en l'occurrence en commission des affaires sociales, à partir du 25 mars et à partir du 1er avril en séance publique, c'est-à-dire dans l'hémicycle. Profitons donc de ce temps et des vacances pour ceux qui ont cette chance pour écrire aux sénateurs en leur demandant de vider de sa substance la proposition de loi sur le suicide assisté et l'euthanasie et pour les inviter au passage bien sûr à adopter celle sur les soins palliatifs. Pour cela, je vous donne rendez-vous sur le site du syndicat de la famille où tous les contacts des sénateurs sont disponibles.
Merci beaucoup Ludovine de la Rochère. Restez mobilisés, chers auditeurs.